Vous écoutez France Culture.
Un été avec Philippe Solers. Une émission proposée par Isabelle Huel et Dominique Rousset. Aujourd'hui, des femmes et des lieux. Née mâle et célibataire dès son plus jeune âge, possède sa propre machine à écrire et sait s'en servir. En exergue à son grand roman « Femmes », paru en 1983, Philippe Solers a choisi ces mots de William Faulkner. Les exergues, c'est à noter, sont toujours choisis avec soin pour chacun de ses livres. L'ouvrage est diversement accueilli. Il fait rire, il enthousiasme, il agace, il scandalise. Pour Solers, il est tout simplement de son temps.
Au début des années 1980, je veux revenir sur toute une période historique qui me paraît extraordinairement importante, c'est-à-dire les années 1970. Qu'est-ce qui s'est passé? Parmi bien d'autres phénomènes, dans la communication, les médias, les homosexuels, etc. Mais c'est la question femme. Autrement dit, une femme née dans cet horizon-là n'a plus pratiquement rien à voir avec sa mère, et encore moins avec sa grand-mère. Alors là, par rapport à son arrière-grand-mère, n'en parlons pas. Donc qu'est-ce qui s'est passé là? La courbure sur ce continent dit féminin. À partir de là, comme j'avais quand même beaucoup voyagé, beaucoup observé, beaucoup été un ethnologue sur le terrain, sur le motif, car on ne doit parler que de ce qu'on connaît. Et j'attends après ça qu'on me prouve que je raconte n'importe quoi. C'est pas vrai. Mutation de la chose féminine. Voilà. Et donc, là, ça touche là encore des problèmes très très importants, c'est-à-dire la mort, la naissance, la mort, la fabrication des corps, etc., le féminisme. Bon, il faut aller voir aussi aux États-Unis d'Amérique où j'ai vécu, où j'ai vu beaucoup de choses. Une espèce de libération qui tourne à l'envers, qui revient à une sorte, au contraire, de puritanisme agressif. Donc, c'est à la fois cette poussée, cette libération qui se retourne en régression. Je crois que n'importe qui peut le constater aujourd'hui. Alors à partir de là, il fallait être concret, c'est-à-dire mettre en scène des personnages que j'agite comme ça, selon deux directions. C'est un problème presque de chimie organique. C'est comme un tableau de Mendeleïev, si vous voulez, les négatives et les positives. Le personnage masculin, il est censé être américain.
On précise que c'est un américain.
Il est censé être américain, mais ça je joue avec. Il se déplace dans ce continent.
Un écrivain.
Il a des rencontres.
Il est écrivain, on le précise quand même aussi.
Il est écrivain, oui. Enfin, il va faire écrire le livre par un français, peu importe. Parce que l'américain, ça c'est aussi c'est humoristique, parce que jamais un américain n'aurait ce genre d'activité dans la vie. On ne voit pas un américain déguisé en Casanova allant vraiment sur le terrain. Il s'arrêterait au bout de la deuxième ou troisième rencontre. Il aurait déjà été marié trois fois avec des pensions alimentaires considérables. Enfin, ça me rappelle Norman Mailer, à qui j'ai demandé un jour pourquoi il avait écrit un livre aussi ennuyeux. Et il me dit, mais j'ai neuf. Il avait
neuf pensions
d'enfants. Et puis, donc, voilà, la raison était très simple. Oui. Donc, là, les négatives et les positives. Alors, là, il y a une série de personnages, mon avis, très finement étudiés. C'est pour ça que ça n'a pas de ride. Alors, quand le livre est sorti, comme il y avait aussi des personnages masculins, tout le monde s'est précipité sur les clés supposées de ces personnages masculins. C'est-à-dire Althusser, Barthes, Lacan, etc., qui sont très, très bien décrits aussi dans la,
très
même,
repérable,
dans
très
la même période.
D'accord.
Et étrange, extraordinaire, personne ne s'est occupé des personnages féminins. Symptôme énorme. J'ai un ami qui est venu me voir récemment, plus jeune, beaucoup plus jeune, qui m'a dit, mais c'est curieux, on ne parle jamais des personnages féminins de vos livres. Et évidemment que c'est là que ça se passe. Pourquoi cette censure? Ça, c'est très intéressant. Alors, je lui dis, faites-moi un catalogue. Combien y en a-t-il? Alors, je ne sais pas, il en a trouvé de 200 ou 220, voilà, toutes avec des identités précises, des identités extraordinairement différentes, de milieux sociaux différents, de nationalités différentes. Par exemple, il y a un personnage dont personne n'a jamais parlé, ce qui est quand même ahurissant. C'est un personnage de chinoise qui s'appelle Lysia dans Femme, qui est un peu à l'ambassade chinoise et qui a une aventure comme ça en coup de vent avec le narrateur.
Bon. Qui est très moderne quand on pense aux Chinoises d'aujourd'hui. Vous ne le pensez pas ?
Voilà, il faudrait relire ce passage.
Des années 2000. Oui. On l'a.
On va relire
plusieurs passages où vous la retrouvez. Bon. Oui.
Et puis, personne ne va parler non plus de la fille qui est claveciniste et qui joue après ça à Venise les variations Goldberg, je crois, de Bach. Enfin, bref. Sauf une claveciniste charmante qui s'appelle Huguette Dreyfus, qui est professeure de clavecin, je ne sais pas si elle est toujours en vie, qui m'a dit un jour, ah, mais personne n'a écrit sur Bach le clavecin comme vous l'avez fait, etc. Bon, personnage féminin, oblitéré. Why? Ma vie donc, l'équation d'où je suis parti, le point où j'en suis. Déjà, je m'endors presque. Raconter ma vie m'ennuie à mourir. Ce n'est jamais ça. On ne peut que simplifier, grossir, amoindrir, rétrécir. Mais enfin, il faut. Essayons de tenir le fil érotique. Voyons, qu'est-ce que j'attrape là ? Lysia. Ah non, pas Lysia, maintenant, plus tard, la Chine, ses miaulements. Non, non, pas Lysia, pas de dérivation. Allons, allons, la dernière. On se voyait vite l'après-midi, dans un petit studio loué exprès du côté des Champs-Élysées, près de l'ambassade. Une heure et demie, une de mes aventures les plus audacieuses, roman policier. Je l'avais connue aux langues orientales. Elle travaillait dans les services culturels, enfin. Belle, exquise, laquée, souple, mince, 30 ans, mariée, en manque. Le vice léger, tout, flûte de jade, le rêve du pavillon rouge, jaune, turquoise, les contes du bord de l'eau, l'éventail du phénix, la rosée du clair de lune. Une précision, un appétit. Corps presque enfantin, une de mes meilleures sensations du dedans. Je veux dire muqueuse à muqueuse dans le four abstrait de la jouissance incurvée. Vous comprenez? Non? Eh ben tant pis. Il y a longtemps que je pense qu'une véritable cartographie des coïts serait souhaitable. Une carte du tendre en action. En général, les narrateurs se taisent au moment de passer à l'acte, ou alors ils en remettent dans le genre crispé, microsadisme divers, scatologie, découpage. Le plus souvent, c'est quand même le style éthéré. Elle sortit de son bain, vint s'allonger près de moi, nous nous éteignîmes. Elle se laissa aller, nous roulâmes sur le lit plumeux. Ce jour-là, nous ne lûmes pas plus avant. Fin du paragraphe. Non, ce qu'il faudrait, c'est la notation exacte de l'aventurier sur les sensations internes de son bout d'organe à la rencontre de la dérobade compréhensive de la chair pénétrée. Toute une palette inédite à découvrir, positive, négative, neutre, vitaminante, plombée. Les descriptions sont trop extérieures, littérature guindée, empêtrée, gourmée, agressivité simplifiée, scène trop soumise à l'œil, à l'idée de l'œil, au stéréotype optique. Lysia vient ici dans la narration. Parce que vous la racontez ma vie, je lui dois une reconnaissance tactile, une gratitude de peintre, de graveur, 2 ou 3 bambous, 4 feuilles, allusion de l'air, pente, courant, densité de l'air, éclat d'eau. L'univers d'un coup de pinceau. Depuis que j'écris ce livre, d'ailleurs, je comprends mieux les peintres. il me semble que je rentre dans leurs gestes, dans leurs évidences, d'au-delà du miroir. Vous voyez la couverture, par exemple, de Femmes en folio. Je me rappelle très bien, j'avais choisi évidemment, et il en est question dans le livre Les Demoiselles d'Avignon de Picasso, et à l'époque, il y avait quelqu'un qui est parti de Gallimard, mais enfin, je me rappelle, qui était responsable de la collection, et qui m'a dit, c'était d'origine allemande d'ailleurs, et je montais l'escalier pour aller à la fabrication, et elle me dit du haut de l'escalier, « Qui a choisi cette horreur ?» Et donc, voilà. Alors, le seul enquêteur sérieux sur cette affaire, voilà. Littérairement, je pense que vous avez ça dans ce livre. Le reste se traîne un peu partout dans les romans. Mais
il y a deux questions amusantes.
Je tiens à être un peu mégalomane. L'autre enquêteur sérieux, ça a été Picasso, bien sûr.
Alors, sur les musiciennes, juste pour parce que c'est drôle, les musiciennes, les seules que j'aimerais sauver, on vous a beaucoup reproché aussi de votre dureté envers les femmes, ça n'a pas toujours été bien compris, mais bon. Chanteuse, pianiste, claveciniste, violoniste, je pense à cette petite brune, Louise, on se voyait le dimanche, elle travaillait constamment, reprenant, Scarlatti, Haydn, Mozart, ses mains, son profil, les doigts volants, son buste balancier souple, je l'aurais écouté des heures. On flirtait à peine, gamme de nuances, température, tempérée. Fascination pour la musique déjà, hein. Donc ça c'est très,
eh bien, écoutez,
très joli.
Écoutez, là, il y a deux jours, je crois, je rentre chez moi, j'allume la télévision mécaniquement, c'était Arte, leçon de piano, je crois que ça s'appelle. Il y avait quelqu'un dont j'ai parlé souvent, cette pianiste absolument géniale qui s'appelle Martha Argerich. Elle jouait le deuxième concerto de Beethoven et ensuite un petit morceau très bref de Scarlatti. Martha Argerich, vous le savez, n'a pas envie de donner des concerts. Et elle s'est laissée avoir une apparence totalement, étrange. On dirait qu'elle sort d'une grotte préhistorique, elle a des cheveux grisselles, etc. Elle se néglige physiquement complètement. Ce que les femmes ressentent d'une façon presque insultante. Elle commence à jouer, et à ce moment-là, il se passe quelque chose de très, très bizarre. Elle a un visage très belle, et très belle, elle a été très belle, et elle reste, à mon avis, très belle. Son œil commence à s'allumer d'une curieuse façon, elle jette des regards en coin, comme un vieux bébé méchant, mais très, 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 très assuré de ce qu'elle fait. C'était sublime. Martha Argerich, reine indienne. Elle a son mauvais génie, son démon. Elle croit par humilité qu'il faut jouer de la musique secondaire. Bien entendu, elle y est incomparable, mais à quoi bon écouter une fois de plus Schumann ou Liszt? En concert, Bach, Scarlatti. En définitive, Bach. Pourquoi ? Glenn Gould est comme lui, jeu viril, massif, délicat, précis, indépendance des mains incroyable. Deux mains, quatre, deux cerveaux, quatre. Le piano s'étend, là-bas à gauche, là-bas à droite, et pourtant le milieu n'a jamais été aussi milieu, le milieu extrême. La gauche dit ça. Les mains sont des épaules, des bras et aussi des pieds, des cuisses. Les doigts viennent de la bouche, souffle profond. Regardez sa moue, boudeuse. Je veux, j'en vois. J'ai dit modeste, ce n'est pas moi. Amusé, sauvage, rétracté, rieuse, réservée, mélancolique, trop de force, sensualité et autorité subite. Concentration, quartz. Elle impose sa volonté à l'orchestre qui est obligé de la retenir. La musique est en avance de ce qu'on joue. Elle a déjà joué ce qu'elle joue quand elle le joue. Quand elle commence, elle recommence. Elle est là, elle est loin. Elle est deux fois plus loin parce qu'elle est là, à l'écoute. Dédoublé, noir. Le clavier, une femme de clavier. Touché. Le piano est un cercueil, c'est la mort. Les touches sont les dents de la mort. Elle passe en force à travers la mort. Elle la fait rouler, elle l'exorcise. Suite anglaise numéro 2, Bach a réécouté. Le secret de Martha, c'est Bach. Elle fait semblant qu'il y a d'autres musiques. Tout le monde fait semblant, mais non, Bach. Frédéric de Prusse, un soir, faisant lever ses convives à table, « Messieurs, le vieux Bach est arrivé. » Scarlatti comme il se doit, virtuosité presque inaudible, insolente. Bach, énergie réglée, éternel retour, vie divine, cinquième évangéliste, nature saisie au rendez-vous du temps. Martha, on la reconnaît tout de suite. Mon rêve a toujours été de la séquestrer pendant un mois. Les suites anglaises, matin et soir, mille et une fois, roman sublime. Les sonates de Beethoven avec Gidon Kremer, chacun son instrument, printemps. Violon féminin, lui, piano masculin souple, elle. Un seul équivalent dans l'histoire, Clara Askill et Arthur Grumio dans Mozart. Un soir à Bruxelles, longue conversation dans la nuit, elle a horreur des concerts, mauvais rêve. Pas assez d'enregistrements de Bach, elle s'en fout. À quoi bon ? Pour qui, d'ailleurs ? La nuit tombe, elle se tait, elle est très lucide, mouvement de la tête, brusque, là-bas.
Vous dites autre chose de très intéressant dans Femmes, il y a beaucoup de choses. Bien entendu, il y a toutes les expériences, les aventures, les expériences érotiques de votre héros. Et puis, au bout d'un moment, vous dites, j'affirme en tout cas que les femmes les plus intéressantes viennent et viendront des continents ou des groupes touchés par l'aile noire du bouleversement social. Il y a Déborah dans votre livre, que chacun aura reconnu.
Oui.
Vous avez déjà évoqué avec nous votre épouse rencontrée très jeune, arrivant des pays de l'Est, donc deux pays de bouleversement social.
Oui, oui.
Et pourquoi dites-vous cela ? Vous le maintenez ? Vous
êtes... Parce que, je n'ai pas dit que ça serait le cas pour des masses entières, mais dans certains cas, ça j'en suis à peu près sûr, le fait d'avoir vécu, subi, une oppression assez dure, une répression, une surveillance, etc. Le fait de s'échapper de ça, pour découvrir la liberté européenne, occidentale, à mon avis, qualifie, en tout cas c'est comme ça que j'ai ressenti l'apparition de Julia Kristeva. Elle avait 25 ans, elle était sortie et il ne fallait pas qu'elle rentre. C'est quelque chose qui pourra se reproduire, à mon avis.
Vous pouvez le dire des migrants d'aujourd'hui qui ont le courage de quitter leur pays.
Polonaise, tchèque, ou bien alors...
Africaine,
on dit. Ou alors, plus probablement, mais là, à assez long terme, mais pas vraiment. L'avenir féminin est chinois. Ce seront des Chinoises qui viendront prendre, si j'ose dire, possession du terrain européen. Voilà. Et avec une culture qui se développera dans les sphères un tout petit peu au-dessus, enfin, il suffit qu'il y en ait 100 millions sur 1,3 milliard, et comme je suis seul à le dire, je dis, ça m'intrigue, parce que ce n'est pas l'américaine qui est l'avenir du monde, hein, sûrement pas.
Mais votre chinoise dans Femme, c'était déjà cela ?
Oui, absolument. C'était déjà ça. Voilà. Je poursuis dans ce sens, oui.
Ouais. Je reprends ma question.
La fin de mon dernier roman, qui s'appelle Les Voyageurs du Temps, c'est la description, je peux vous la lire si vous voulez, c'est la description d'une serveuse de restaurant chinoise, qui est le portrait même d'une petite danseuse chinoise de l'époque Tang, 7e, 8e siècle. Donc la traversée du temps, les voyageurs du temps, la traversée du temps, elle était là et elle pourrait danser comme ça, au 7e siècle, elle serait immédiatement dans le coup. Dans le petit restaurant chinois près de mon bureau, il y a Sophie, l'une des deux nouvelles serveuses. Son vrai prénom est Hua, fleur, mais Sophie lui va bien. Elle arrive directement du 8e siècle de notre ère. C'est le portrait même d'une dame de cour qu'on m'a offerte récemment, une magnifique terre cuite émaillée de 62 cm de la dynastie Tang, 618-907. Sophie n'a aucune idée de cette ressemblance frappante et génétique. Elle va, elle vient, elle sourit, tous ses gestes sont souples, précis et nets. Elle est née à Chengdu, au Sichuan. Elle est arrivée à Paris à l'âge de 10 ans. Elle parle parfaitement le français et tout indique que je vais faire en chinois des progrès rapides. Des dames de cour pareilles à la mienne sont connues, mais elles sont de taille plus modeste, 20 ou 30 cm de haut. Les statuettes funéraires, émaillées trois couleurs de cette dimension, représentent pour la plupart, et c'est logique, des figures masculines. Cependant, une dame de cour mesurant 60,3 cm est conservée au musée d'art asiatique de Berlin. La tenue que porte Madame est caractéristique du début des Tang, avant l'apparition de la robe ample dans le deuxième quart du 8e siècle. La voici debout, mains jointes au niveau de la ceinture. Elle est vêtue d'une tunique crème à manches longues et d'un corsage échancré de couleur ambre dont les manches couvrent le haut des bras. Sa longue jupe droite est ornée de rayures verticales, ambre et verte. La jupe s'évase à la base, laissant deviner les pieds, certainement chaussés de poulaine à bout fleuri, en vogue à l'époque. Un châle vert entoure ses épaules rondes, il retombe souplement devant elle, dissimulant ses mains. Le coin supérieur gauche se retourne délicatement, dévoilant ainsi le revers ambre de l'étoffe. Le visage, dessiné avec précision, était à l'origine peint, comme le montrent les traces de polychromie visibles sur les lèvres charnues. Les cheveux, qui révèlent des restes de peinture noire, sont retenus en un élégant chignon à double coque. Elle présente une merveilleuse posture cambrée, tirant son buste vers l'arrière. Elle tient sa tête droite dans une attitude fière et digne. Elle est souveraine, elle sait tout, elle est musicienne et danseuse, sans parler du reste. Bien que n'ayant plus depuis longtemps ce que Casanova appelle joliment le suffrage à vue, je n'ai pas eu grand mal à amener Sophie, 25 ans, dans mon studio d'expertise. La grâce du début du 8e siècle chinois, vous dis-je, élégance, vivacité, rigueur, gaieté, insolence, plaisir. Où était la France au début du 8e siècle ? Le voyage du temps a ses lois.
La question, c'était sur les migrants, tous ceux qui cherchent à gagner l'Europe ou les pays occidentalisés où on vit. Ils sont censés vivre mieux. Ces gens-là ont du courage pour vous ?
Oui, certainement, un courage énorme. Mais enfin, il faut qu'ils puissent déjà avoir en eux un désir de connaissance, enfin un désir d'appropriation. Pas vivre en tant que... on vient se poser là et on profite des avantages éventuels. Ce qui se passera probablement, mais encore une fois, pour pas tellement non, l'individu, c'est une intense volonté d'appropriation. Quand Julia arrive en France, elle a cette volonté, ce désir. Hein. Donc, elle a déjà lu beaucoup, elle a envie d'aller plus loin, de s'approprier. Donc, du coup, elle a fait une carrière universitaire, alors qu'elle était vraiment, elle n'avait rien. Une carrière universitaire extraordinairement brillante. Et voilà, international. Take me to heart, and I'll always love you. And nobody can make me do wrong. Take me for granted, leave it. J'ai longtemps hésité à laisser les premières phrases de femmes. Le monde appartient aux femmes, c'est-à-dire à la mort. Là-dessus, tout le monde ment. Bon, démonstration. Après, hein, sur plein de pages. La question est la suivante. À partir du moment où on ment sur l'origine des corps, etc., pas l'origine du monde, comme le tableau de Courbet, humain, appelé par Marcel Duchamp. Non, l'origine du monde humain, si vous voulez, mais pas du monde. Les galaxies ou les éléphants, on peut avoir avec une femme. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a là aussi quelque chose qui coince, comme et encore une fois, c'est métaphysique. C'est une représentation des mystères féminins, de la maternité, donc d'un matriarcat profond qui n'est pas mis en question, ou alors qui ne l'est que pour être remis en circulation et en fonctionnement grâce à la technique. Alors, cette pseudo-reconnaissance des femmes s'accompagne, à mon avis, d'une hypocrisie considérable. Premièrement, question de salaire, l'argent. Jamais je n'aurais pu vivre ou cohabiter avec, ou vivre avec même, enfin, même une aventure, avec une femme qui n'aurait pas eu son argent. Ça ne me serait pas venu à l'idée. Et c'est là qu'aussi énormément de choses se passent, dissimulation, hypocrisie. Je ne parle pas du monde d'avant, où la religion s'occupait de voiler, si on peut dire, le continent. Il continue à voiler. Il est absolument scandaleux de voir que le Conseil d'État ne réagit que mollement à l'histoire de la burqa. Enfin, il va de soi que la burqa doit être rigoureusement interdite. Enfin, on reste stupéfait devant des déclarations de droite, de gauche, un peu partout, qui disent « Ah mais non, mais c'est après tout, si ça leur plaît de se voler. Enfin, bon, c'est, s'il me plaît à moi d'être battu, oui, c'est ça. » Bon, d'accord. Alors, il y a déjà cette hypocrisie renouvelée, renouvelable, indéfiniment renouvelable, donc, qui tient les femmes, tient le pouvoir. Ce que les religions savent. Deux, mais qui le sait maintenant, c'est la technique. Tout ce qui peut se fabriquer pour entourer, pour réinventer une idéalisation des femmes. Alors ça va partout, hein, c'est produits de beauté, c'est lifting, c'est ceci, c'est collagène, by night, et tout. Enfin bon, vous connaissez le programme est prêt. Hein. C'est-à-dire, si on tient les femmes par leur narcissisme, qui peut devenir absolument obsédant, d'autre part par l'histoire des enfants, qui peut être un levier extrêmement puissant, parce que beaucoup de femmes, 90% disons, et encore je suis optimiste,
réclament un enfant.
Réclament, comme vous dites, elles portent plainte par définition. Elles réclament un enfant parce que c'est comme ça, parce qu'autrement elles deviennent folles, etc. Vous voyez, bon. Donc tout ça pèse très très lourd pour essayer d'être libre dans une existence autonome et parfaitement...
Mais alors,
c'est pour ça que les femmes libres sont très rares. Ben, moi, elles m'intéressent.
Et les hommes en face de ces femmes-là, vous faites partie de ces hommes-là,
ça,
vous?
En général, ils ont peur, ça les chagrine. Je ne sais pas, oui, il y a un problème.
Mais vous avez toujours
revendiqué... Le problème, c'est les hommes, ce n'est pas les femmes. Ouais. Les femmes, bon, soit elles sont, comme disait Madame de Verteuil dans Les Liaisons dangereuses, soit ce sont des espèces. Et donc, il ne faut pas les embêter. Pourquoi pas, qu'elles soient mariées, qu'elles aient des enfants, qu'elles divorcent, qu'elles aient encore d'autres enfants. Vous voyez Paris Match, ça n'arrête pas. S'il y a pas. Et puis, si elles n'ont pas d'enfants, on en adopte, etc. Enfin, c'est un produit ménager, l'enfant. Mais être autonome, vraiment, pas forcément seul, d'ailleurs. L'adultère est une chose qui est tout à fait intéressante. Une femme mariée avec enfant peut aussi découvrir la vie un peu plus tardivement qu'avant. Voyez, il y a plein de figures possibles. Mais il faut se méfier du gros animal social qui veut canaliser tout ça dans un sens de profit. Voilà.
Non è lontano, partiam ben mio da qui.
Vorrei, non vorrei, mi trema un poco il cuore, felice per sarei, ma può burlarmi ancora.
Un livre aussi où vous parlez beaucoup de la passion et du plaisir, évidemment, sans aucun sentiment de culpabilité. Vous y insistez à plusieurs reprises. C'est même ce qui vous frappe, enfin, ce qui frappe votre héros. L'absence de culpabilité, je n'arrive pas à sentir la faute qu'il y aurait à satisfaire ses passions,
voilà,
dit-il.
Voilà, sans opprimer qui que ce soit.
Que vous le prenez problème, volontiers à votre
librement,
compte.
Librement, oui, c'est ça. On a essayé depuis très... Enfin, à peine étais-je né, pas ma famille qui était assez libérale. Je vous dois beaucoup de ce point de vue. L'humour féminin était là. Mais quand même, j'ai passé mon temps à me voir inoculer un produit qui avait déclenché chez moi de la culpabilité, de la honte, du remords. Je dois être réfractaire. Enfin, c'est une question peut-être génétique, j'en sais rien. Ça n'a pas pris. Comme dit Nietzsche quelque part, vous savez, de son temps, les prêtres ont besoin du péché. Alors, ce n'est plus les prêtres d'autrefois, parce que les braves gens sont un peu dispersés dans la nature. On voit comment Stendhal pèse contre les jésuites qui reviennent au pouvoir avec la Restauration. Le personnel a changé. Mais il y a une cléricature, une vraie influence, aussi bien dans l'école laïque républicaine que j'ai connue ou ailleurs. C'est constant. C'est la moraline. Et pourquoi est-ce que vous ne vous sentez pas coupable ? Alors, au moment où Femme est parue, il y a plein de gens qui m'ont dit « Mais on aimerait bien avoir le point de vue des femmes de votre livre. » C'était un compliment, mais il faut aller leur demander. Mais comme ce sont des personnages de roman qui comportent des éléments réels, bien entendu, il n'y a pas de clé unique, jamais dans les livres, bien sûr. Ou alors, un éditeur, que je ne vous citerai pas, qui m'invite à déjeuner, qui sort quasiment son carnet de chèques, et qui me dit « Mais maintenant, vous allez écrire « homme » au pluriel. » Non, pas moi. C'était une proposition homosexuelle, mais enfin, ce n'est pas ma tendance.
Cette page-là, c'est possible ?
Finalement, j'ai fait à 20 ou 30 ans ce que les hommes se fatiguent à connaître à 50 ou 60. Ils évoluent de la morosité contrainte au délabrement vitreux relâché. Et moi, du libertinage fou à la contemplation mystique. On pourrait mettre des personnages réels, là, tout d'un coup. Quand je lis de la morosité contrainte au délabrement vitreux relâché, je ne mets pas une photo, mais tout de même, elle serait facile à trouver. Chacun ses voies. Je vivais avec très peu d'argent, il me semble. Tout pour l'amusement. Elle ne me faisait pas tellement payer quand j'y pense. Ce qui prouve que j'avais le sens inné de la discontinuité, de la rupture préventive. C'est là qu'on voit qu'on vieillit. Quand on hésite à prendre la porte, quand la question chèque se pose. C'est étonnant à quel point on peut être inconscient de sa propre valeur en tant que chair fraîche. À l'époque, j'aurais pu être Mac. Une fille me l'a même proposé un jour, une professionnelle, un peu cultivée. J'ai cru qu'elle plaisantait, mais non, j'avais seulement 22 ans, je baisais correctement. Je suissais bien, je devais être amusant. Peut-être que j'étais... Dans la vérité, elle m'a offert une très belle cravate. Peut-être que j'ai été un peu mac tout de même, sans m'en rendre compte. Une façon de ne rien demander aux femmes. De ne jamais appeler le premier. De ne rien attendre d'elles. Si elles veulent, elles veulent. Sinon, aussi bien. Question d'autonomie, d'ivresse dans la solitude, je m'étonne toujours de constater à quel point il ou elle ont peur d'être seul. Alors que pour moi, c'est depuis toujours le plaisir fondamental, les yeux ouverts du petit matin vide, la soirée qui n'en finit pas, la beauté insensée des murs. J'aime manger seul au restaurant. J'aime rester seul 3 jours, sans adresser la parole à personne. J'aime sentir le temps passer pour rien, n'importe où, dormir, dépenser le temps, me sentir le temps lui-même courant à sa perte.
Beaucoup de psychanalystes et en même temps, vous avez une très bonne connaissance de Freud, incontestablement. En même temps, vous ne voulez surtout pas être le sombre forçat du divan. Non, merci. Et vous parlez gentiment de Lacan que vous avez connu, mais enfin, vous avez toujours soigneusement évité d'aller sur un divan. Quel rapport avec les femmes aussi ? C'est un peu le lien que je souhaitais faire.
Il me semble que j'avais ou j'aurais pu avoir des dons exceptionnels d'analyste. Sauf que rester assis à écouter les jérémiades, toujours les mêmes, de patience, même si ça peut procurer un certain train de vie. Non. Oui, j'ai lu Freud avec beaucoup, beaucoup d'attention. Je trouve extraordinaire qu'on parle à côté de la chose même de Freud. En ce moment, il y a toute une polémique, il y a des tas d'articles qui s'écrivent. Pas une seule fois, je ne vois prononcer des choses claires, nettes, précises sur la sexualité. Parler de Freud sans parler de sexualité, ça me fait mourir de rire, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc, Freud était-il un philosophe, était-il bon, était-il méchant, tout ça, bon, non. Non, des psychanalystes, le psychanalyste, alors avec qui j'ai eu des rapports de conversation absolument génial, de son point de vue à lui, enfin génial lui, non, c'est Lacan. La première fois que j'ai connu Lacan, il avait repéré un article de moi, ou une interview de moi, et il demande à me voir. Il m'invite à déjeuner. Et il me propose de venir faire une séance, enfin une conférence, à son séminaire, bien entendu. Je refuse. C'était une invitation prestigieuse. Hein. Il y avait beaucoup de monde. D'autre part, j'ai compris tout de suite qu'il me prenait pour un universitaire. Erreur. Il m'a dit, sur quoi vous faites votre thèse ? Je ne fais pas de thèse. Après, j'écris sur l'autre amant, il croyait que j'avais détourné son enseignement. Mais je ne fais pas d'enseignement. Vous voyez, la difficulté qu'il y a avec les intellectuels, ou même de très haut niveau, de comprendre qu'ils ont en face d'eux, même, quelqu'un qui est libre, qui écrit ce qu'il veut. C'était très compliqué, cette espèce de clergé du parti intellectuel qui remplace l'ancien, qui est tout à fait désingué. Donc il y a là une caricature. Et même Lacan, vous voyez, des trucs de convention d'un bourgeois d'avant-guerre, avec un génie. C'est-à-dire qu'il avait des improvisations, parfois extrêmement pénibles, longues, mais parfois absolument fulgurantes. Dans l'esprit de Freud. Cela dit, tout compte fait, en définitive, je préfère lire Freud que Lacan. Pourquoi ? Parce que Lacan surécrit ce qu'il écrit. Et donc c'était dans la parole, c'était un grand théâtre oral, tout à fait passionnant. Donc j'allais là tous les mardis l'écouter. Parce que, oui, c'était à la fois Molière, et puis tout à coup ça devenait tragique. Enfin, bon, c'était très curieux, il était un peu bouffon aussi. C'est ça. Bon. Le passage de l'oral à l'écrit, il ne doit pas y avoir de séparation entre l'oral et l'écrit. Donc heureusement qu'il est mis en écrit par Jacques-Alain Miller, son genre. Bon, très bien. Mais Freud alors, quel écrivain. Et c'est ça, je trouve aussi, qui manque à tout ce qu'on dit sur Freud. Quel écrivain, les cinq psychanalyses, ce sont des petits romans policiers admirablement écrits. Il écoute et il écrit.
Pourquoi dites-vous que vous auriez été un excellent psychanalyste et pourquoi êtes-vous si sévère avec l'envahissement de la psychologie, le psychologisme ? Assez souvent, vous êtes critique là-dessus.
Parce que je vois tout de suite, j'ai une assez bonne oreille, je crois.
Mais vous le décelez chez les écrivains, par exemple ?
Ah oui, je vois tout de suite où est le problème. Je passe mon temps à recevoir des manuscrits et le divan s'impose. Enfin, je le dis pas comme ça. Et c'est nul, la plupart du temps. Franchement nul, avec toujours un symptôme sexuel repérable, etc., comme on peut le repérer dans toutes les conversations, où finalement, après toutes ces libérations qu'on aura dites, qui ne se sont pas opérées, sauf exceptionnellement, qu'est-ce qui revient sans cesse ? Qu'est-ce qui revient sans fin ? C'est le roman familial. C'est papa, c'est maman, c'est toujours tante, c'est pipi, caca, maman, c'est papa. Vous savez, ça s'entend tout de suite. Et donc, j'aurais fait un excellent analyste, mais trop court, trop bref. Enfin, genre zen à Lacan, parce que Lacan, c'était pour des gens qu'il a gentiment ruiné, d'ailleurs, pour leur bien. Venez à 7h du matin, et à 7h10, foutez le camp. Revenez me voir ce soir, etc. Voilà. Ou alors, aux femmes. Le dernier Lacan, truand, hilarant. Mais j'ai dit, donnez-moi ce que vous avez dans votre sac. Magnifique, Lacan.
Thank you.
à propos de l'accueil qui a été fait à femmes, par les femmes.
Très curieusement, alors que je m'attendais à une levée en masse de condamnation féminine, parce que n'oubliez pas qu'on était en plein féminisme, et que j'attaque là cette nouvelle religion qui est un peu éparpillée maintenant. Bon. Donc, étrangement, les réactions négatives n'ont pas été féminines, mais incroyablement masculines. La plupart des lettres d'injures, d'insultes, etc., ont été des lettres d'hommes. Peu de réactions d'horreur féminine, comme si, au fond, j'avais dit quelque chose qui les arrangeait plutôt. Il y a eu des choses amusantes au moment de la traduction. C'était la traductrice de Marguerite Duras. Marguerite Duras était très mécontente de ce livre. Voilà une réaction de jalousie tout à fait précise. Donc elle a réagi très vite, avec beaucoup, beaucoup d'intelligence, en essayant d'arrêter le phénomène que j'étais. Bon, avec ce livre, en tout cas. Et la traductrice de Marguerite Duras venait me demander des précisions. Elle voulait traduire l'expression suivante. Elle m'embrasse au souffle. Et elle ne savait pas comment traduire, c'est-à-dire, elle ne savait pas de quoi je parlais. Donc je n'ai pas fait une démo. C'est une dame assez convenable. Je pouvais lui montrer ce que c'était que d'embrasser au souffle, à condition qu'elle réponde à ce souffle. Visiblement, elle n'avait pas idée de ce que ça pouvait être, et ça, c'était très amusant, quand même. Dès qu'on aborde un certain nombre de choses précises dans la physiologie et dans ces choses-là, de façon crue et en même temps raffinée, parce qu'il faut tenir la distance, il faut que les choses ne passent pas tomber uniquement dans la précision physiologique, eh bien, on voit très bien que c'est là que le cœur social bat et ne veut pas entendre ce battement qui l'anime pourtant tout entier. Voilà. Donc un analyste, s'il est doué, entend ça du premier coup.
Qu'en pensez les femmes dont vous parlez? Alors dans le roman, vous racontez à plusieurs reprises, le narrateur en tout cas entend dire que ces femmes-là s'inquiètent un peu, elles savent que vous êtes en train d'écrire un roman sur ce sujet, elles se demandent comment elles vont apparaître.
No comment. J'ai toujours été surpris de voir, je le dis d'ailleurs dans un vrai roman, comment il n'y a jamais eu de clash là-dessus, enfin de violence là-dessus. Non, pas du tout. À croire même que ce point de vue masculin leur paraît, au fond, sans importance réelle. Ce qui me paraît bien vu. C'est-à-dire qu'au fond, toutes ces histoires de sexualité, etc. Moi, je suis sur le terrain, je fais mon travail d'ethnologue. Mais c'est pas grand-chose. Voilà. Donc ça m'a beaucoup étonné, ça aussi. J'ai dit un jour, si les femmes étaient libérales, ça se saurait. Il se trouve que moi, j'ai plutôt vécu avec des femmes qui l'étaient, mais qui ne sont probablement pas représentatives de la majorité, pas tellement silencieuse. My heart keeps missing a heartbeat, singing its song about you. And although the song we know is old. Philippe Solers, pourtant vous êtes un homme fidèle. On a parlé des femmes qui ont traversé votre vie, on a parlé de trois essentiellement, à qui vous avez toujours été fidèle, en tout cas qui sont dans votre vie et qui le resteront. Je suis très fidèle, seulement pas de la façon dont c'est en général construit dans les romans, ou dans les magazines féminins, ou dans les magazines tout court. D'une fidélité à toute épreuve, quand quelque chose de nécessaire, d'essentiel a eu lieu. Bon, je ne vais pas vous refaire le truc de Sartre et Beauvoir, les amours nécessaires et les amours contingentes. Mais autant les amours contingentes peuvent être transitoires, autant les amours nécessaires, s'il y en a, sont absolument, requièrent une fidélité complète, enfin absolue, je dirais. Seulement cette fidélité, quand on la pose en termes sexuels, c'est de l'escroquerie. C'est marcher dans quelque chose qui n'existe, où jamais les hommes et les femmes ne sont d'accord. On peut obliger les hommes à avoir un point de vue qui leur sera posé de plus en plus, c'est-à-dire que leur corps appartient à leur partenaire. Ce qui n'est fait que renverser le schéma ancien, à savoir que le corps des femmes appartenait à leur propriétaire. Bon, qu'il soit, voilà. Donc c'est cette question d'appartenance, de réquisitoire du corps qui doit être sexuellement encadré, qui me paraît absolument pas recevable et qui doit absolument être détruit. Que les femmes soient libres, moi ça ne me gêne pas du tout, ma liberté en sort renforcée. Tout ce qu'il y a de mieux à faire dans ces questions, c'est qu'on laisse l'autre faire à sa guise. Il y a un contrat de fidélité qui est autre, qui n'est pas dans ce... Alors, l'essentiel, c'est de ne pas en parler. Contrairement à Sartre et Beauvoir, les pauvres qui se racontaient tout, qui se voulaient transparents, etc. C'était absolument insensé. C'est une sorte d'enfer. Hein, d'autant plus qu'on ment même si on raconte. Enfin, bref. Non, on ne parle pas de sa vie sexuelle. Et c'est le contraire, puisque en général, quand ça étouffe, alors les gens vont en psychanalyse, ils racontent ça sur les divans, ils payent ça, et pour essayer d'y voir un peu plus clair dans ce qui peut ne pas aller dans leur vie.
Mais si on l'apprend, on souffre.
Eh bien, la souffrance fait partie de la vie, oui. Oui. Souffrir pour des raisons de ce genre me paraît quand même une imposture profonde. Encore une fois, je vous dis, je suis un athée sexuel complet. C'est-à-dire que la survalorisation de ça, l'arraisonnement de ça, l'obsession, je dirais, de cela, parce que je raconte beaucoup de choses, mais sans obsession. La question est là. Le fait de survaloriser ce genre de choses, qui est encore une trace du vieux romantisme antérieur, de toutes les oppressions, de toutes les contraintes que l'humanité s'est inventées pour empêcher les gens d'aller plus loin dans leur vie propre. Ça, je ne marche pas.
C'est une forme de lutte aussi contre l'ennui, parce que souvent vous revenez sur l'ennui, une société finalement qui s'ennuie depuis 20 ou 30 ans. Curieusement, on est en 83 dans Femmes, hein, donc oui. 20 ou 30 ans, si je calcule bien, vous remontez aux années 68, justement.
L'ennui.
Depuis, on s'ennuie.
L'ennui est une... La France s'ennuie, oui, en avril 1968, l'article célèbre. L'ennui peut être un plaisir. Je ne sais pas ce qu'est l'ennui. Je n'ai pas le temps de m'ennuyer, si vous voulez. Je n'ai pas le temps intérieur pour l'ennui. Alors, pour paraphraser une formule célèbre, l'ennui, c'est les autres, la plupart du temps. Voilà, ça, c'est... Et la société, alors, a un point ahurissant. C'est vraiment un ennui profond, c'est lourd. Mais moi, je ne m'ennuie jamais, jamais. D'abord parce que j'ai ce genre d'écrit sous la main, et hop, ça, donc ça m'amuse. Ce n'est pas un travail, c'est un jeu. Et j'ai quand même écrit tous ces livres, comme ça. Donc, si je m'étais ennuyé, je ne les aurais pas écrits.
Une journée chez Philippe Solers aujourd'hui, c'est quoi?
Oui.
Bon là, 14h30, nous avons des rendez-vous très réguliers chez vous, dans votre bureau, chez Gallimard. Mmh. Quel est votre emploi du temps? Il est très régulier?
Oui, 6h du matin, je me réveille presque tout seul comme ça, parfois pas, mais enfin voilà. Voilà, un petit déjeuner, toilette, voilà. Alors. À 8h, moins le quart, 7h30, je lis les journaux. Hein, le plus possible de journaux, enfin régulièrement, le journaux du matin, quoi, voilà. Et puis après, en plongée, voilà, débrancher. Oui, le jeu. Le fait d'écrire, c'est le fait de faire de la musique. Je me mets à mon instrument.
C'est rare ça, on parle toujours de travail lorsqu'on écrit.
L'instrument, oui, on peut, oui, est-ce qu'un pianiste travaille? Oui, il travaille, bien sûr, pour s'améliorer, ou pour corriger son jeu, ou pour corriger. Voilà. Stendhal a une phrase merveilleuse sur laquelle je suis tombé. Il dit, bon, le matin, il faut relire 2 ou 3 pages de ce qu'on a fait la veille, mais pas trop longtemps, parce que l'envie de corriger arrive et le feu intérieur s'userait. Donc il faut se mettre un peu en feu. Voilà. Bon. Tenir, comme dit Céline, autre formule admirable, pour tenir un délire en élan. Vous comprenez, ça demande quand même quelque chose, dans une transaction avec son propre système nerveux, les souvenirs, la nuit, les rêves, etc. tenir un délire en élan. Mais écrire un livre, c'est tenir un délire en élan. Et j'adore cette formule parce qu'elle est comme si on faisait du cheval, quoi. Voilà, en élan, tenir en élan. Donc voilà, et après ça, bien que nous y sommes, je viens au début d'après-midi. En général, je déjeune très très peu, très rapidement, même pas, très peu. Pas de déjeuner pour garder le cerveau un peu libre. Alors, le nombre de déjeuners que les gens font, mais c'est invraisemblable, surtout d'un peu dans ce
milieu. Le milieu littéraire,
dans ce milieu. Mais c'est épouvantable. Ils déjeunent, ils font des notes de frais, ils boivent à déjeuner. Mais quelle horreur! On boit quand la nuit s'approche, quand le soleil tombe. Gallimard, donc, dont je pars, voilà, en fin d'après-midi. Après quoi, je bois un peu, je commence à boire un peu de whisky, puis je rentre chez moi. En général, j'évite autant que possible les sorties, les réceptions, les cocktails, le bavardage.
Et là, lecture,
oui.
Chez vous.
Lecture, ou alors les notes pour le lendemain, parce qu'il faut garder un tout petit peu de choses. Il faut amorcer la pompe un petit peu, voilà, pour le lendemain. Et ainsi passent les jours et les saisons.
Été avec Philippe Solers, une émission proposée par Dominique Rousset et réalisée par Isabelle Huel. Prise de son, Adrien Gaza. Mixage, Jean-Louis Deloncle. Demain dimanche, à la même heure, à nouveau des femmes, à nouveau des lieux.